France Culture, Avoir raison avec Bertha von Suttner, Margot Loridon.
On la présente par facilité comme la première femme prix Nobel de la paix, mais c'est bien davantage en tant que pacifiste qu'en tant que femme qu'elle voulait marquer son époque. Il n'empêche, Bertha von Suttner était une femme dans un monde militant dominé par les hommes, une femme qui s'est dressée contre l'institution virile par excellence, la guerre. Avoir raison avec Bertha von Suttner, dernier épisode, féministe malgré elle. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Anne-Laure Briat, maîtresse de conférences en civilisation allemande à Sorbonne Université, autrice de Citoyenne sous tutelle, le mouvement féministe radical dans l'Allemagne wilhelmienne, aux éditions Peter Lang. Bonjour Anne-Laure Briat.
Bonjour.
Nous reçûmes de Berlin des lettres de tante Cornélie, où elle nous disait qu'en Prusse, on ne souhaitait pas du tout la guerre. Le plus complet désarroi y régnait, au contraire, dans la sphère politique et dans l'opinion. Bismarck n'était pas moins antipathique dans son propre pays que chez nous. Le bruit courait que la Landwehr refuserait de marcher pour cette guerre fratricide. On assurait que la reine Augusta se serait jetée aux pieds du roi pour le supplier de s'y opposer. Combien j'aurais voulu m'agenouiller à côté d'elle et entraîner toutes les femmes d'Autriche. Oh oui, la paix. La paix devrait être l'unique but des efforts de toutes les femmes. Ah, si notre noble impératrice s'était aussi jetée aux genoux de l'empereur pour le supplier, les mains jointes et les larmes aux yeux, de désarmer. Anne-Laure Briat, cet extrait de « Bas les armes » donne l'impression que Bertha von Suttner attribue un rôle particulier aux femmes dans le combat pacifiste, mais est-ce vraiment le cas ?
Alors, c'est une excellente question. Oui et non, mais c'est-à-dire il ne faudrait pas mal comprendre Bertha von Suttner. Pour elle, il est très clair, elle en est absolument convaincue, les femmes ne sont pas spécialement pacifistes par nature. Cette idée, elle la rejette très fermement et elle a sans doute côtoyé bien trop de femmes, en particulier de la haute société, pour se tromper à ce sujet. Néanmoins, Bertha von Suttner estime que les femmes ont bel et bien un rôle à jouer dans le mouvement pacifiste. Le rôle qui est mis en scène dans cet extrait de lettres, c'est-à-dire le rôle des femmes qui vont implorer les hommes, et pas n'importe quels hommes, vous aurez noté, implorer les décideurs politiques et les chefs militaires de faire cesser toute guerre, et même de ne pas entrer en guerre. Donc oui, un rôle spécifique, mais certainement pas parce que les femmes seraient pacifiques par nature.
Donc elles ne sont pas pacifiques par nature. Par ailleurs, est-ce qu'elles ont un intérêt particulier en tant que femmes à l'abolition de la spirale guerrière ?
Oui, bien sûr, l'intérêt particulier, donc il est largement illustré dans le vaste roman de Bertha von Suttner, Bas les armes. L'intérêt particulier des femmes à faire tout leur possible et mettre tous les moyens en œuvre pour éviter le déclenchement de toute guerre est bien sûr en premier lieu de préserver leurs proches, ceux qu'elles aiment, leurs maris, leurs enfants, leurs familles, leur pays, et idée très chère à Bertha von Suttner, surtout de préserver l'humanité tout entière. Car la guerre, pour elle, c'est la catastrophe, c'est la fin de l'humanité.
Au-delà de son engagement pacifiste, diriez-vous qu'elle était féministe ?
Ah, j'ai noté que l'épisode est intitulé « Bertha von Suttner, féministe malgré elle ». Alors, Bertha von Suttner était-elle féministe? Par son parcours, je dirais, elle l'est devenue. Pourtant, elle a commencé bien, bien loin des considérations féministes et je dirais encore plus loin du mouvement féministe. Parce que, ça a sans doute déjà été dit au début de l'émission, elle est d'ascendance noble, vient d'une famille dans laquelle le milieu militaire était très largement représenté. Les idées féministes n'y couraient donc pas à travers tous les couloirs. En revanche, comme Bertha von Suttner s'est finalement arrachée de son milieu, et j'insiste quand même sur le fait qu'elle s'en est arrachée tardivement. Elle avait 30 ans, elle n'était toujours pas mariée. C'était pratiquement scandaleux, à tout le moins problématique dans ce milieu et à cette époque pour une femme. Donc, vers l'âge de 30 ans, elle a rencontré celui qui est devenu son futur époux, Gundaka von Soutna, et c'est là seulement qu'elle s'est donc arrachée à son milieu familial et à son pays, qui ne leur aurait pas permis d'épouser cet homme. Et c'est là, je dirais, que la transformation psychologique et l'évolution morale majeure s'est faite en Bertha von Suttner. Et comme elle a, donc ayant rompu tout lien avec son pays, son milieu social, sa famille, elle a dû pratiquement du jour au lendemain travailler pour assurer sa propre subsistance, son mari et elle. Alors là, elle a dû faire l'école, enfin faire l'apprentissage de l'autonomie financière, d'une autonomie intellectuelle, de prise de position, d'engagement, et c'est là qu'elle est devenue féministe. Néanmoins, elle n'était pas proche des milieux féministes ni engagée dans ces mouvements.
Oui, alors on va revenir sur ces différents aspects, mais en effet, comme vous l'avez rappelé, en fait, elle a une vie quand même très romanesque, avec ce mariage tardif, avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle, cette escapade dans le Caucase qui dure 10 ans. Elle n'a pas d'enfance, qui est aussi plutôt rare pour une femme de son époque. Et moi, ce qui m'a frappé en fait en découvrant cette biographie après avoir lu Bas les armes, c'est à quel point la vie de Bertha von Suttner est plus romanesque que celle de son héroïne Martha. Martha qui, elle, se marie à 18 ans, se remarie à la mort de son époux avec un homme plus âgé, a 2 enfants. Alors certes, on ne se dit pas encore à cette époque que l'intime est politique, mais comment comprendre qu'elle ait mis plus de conservatisme en fait, dans la vie de son personnage que dans la sienne ?
Oui, alors effectivement, le personnage de Martha Althaus est nettement plus, a un parcours nettement plus classique et par ses idées, est plus conservatrice que l'autrice du livre. Il me semble que pour comprendre ceci, il faut voir que Martha Althaus est une sorte d'alter ego de Bertha von Suttner, mais simplement de la Bertha von Suttner de sa première vie, si on peut dire, c'est-à-dire jusqu'à ses 30 ans. Alors bon, elle mélange plusieurs éléments de personnages féminins, en particulier de sa propre vie, enfin de sa vie dans la réalité. Néanmoins, Martha Althaus est à mains égards, une copie de Bertha von Suttner avant justement cette prise de conscience de la catastrophe que signifie la guerre à ses yeux et la prise de conscience également des intérêts qu'ont dans la guerre les décideurs politiques, les grands chefs industriels producteurs d'armes et des milieux masculins et masculinistes de son temps qui ne lui étaient que trop familiers.
Alors, ces milieux masculinistes lui étaient familiers, mais à côté de ça, il commençait aussi à y avoir un engagement féministe en Europe au tournant du siècle. Comment se structurait-il pour replacer tout ça dans un contexte ?
Oui, alors depuis la deuxième moitié du 19e siècle, des mouvements féministes se constituaient en effet à travers toute l'Europe et en Allemagne et en Autriche également. Pour parler de l'Allemagne et de l'Autriche, on notera que les structures de ces mouvements féministes et les idées qu'ils défendent sont largement similaires. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois des organisations qui sont structurées de façon très pyramidale, avec donc au sommet une grande organisation fêtière, donc qui était la représentation du mouvement féministe allemand ou autrichien à l'échelle nationale. Ensuite, on avait dans chaque État ou province des représentations régionales et tout en bas de la pyramide, on trouvait une multitude d'associations féministes qui agissaient à l'échelle communale, ecclésiale, etc.
Et alors, est-ce que Bertha von Suttner était en contact avec ces mouvements ?
Alors, elle était très peu en contact avec ces mouvements. En tout cas, pas à la première heure, ça c'est certain. Puisque donc ce revirement, on peut dire, assez radical dans la biographie de Bertha von Suttner ne s'est fait que dans les années 1880. Donc les mouvements féministes, à ce moment-là, étaient déjà largement en phase de constitution et de déploiement. Donc à ce moment-là, non. Néanmoins, Bertha von Suttner était de plus en plus connue dans les milieux pacifistes. et internationaux. Et les mouvements féministes de l'époque avaient, eux, des liens avec les mouvements pacifistes et s'intéressaient à ce mouvement et adhéraient, du moins en partie, à sa cause. Donc il y avait des personnes qui faisaient le maillon, qui reliaient ces deux mouvements. Et donc Bertha von Suttner n'a pas, bien sûr, a été remarquée. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que les mouvements féministes germanophones, en tout cas, donc allemands, autrichiens, ont contacté Bertha von Suttner à plusieurs reprises et l'ont invitée à rejoindre le mouvement ou à tout le moins des congrès en étant, mettons par exemple, invitée d'honneur de tel ou tel congrès. Et Bertha von Suttner a assez systématiquement décliné ces invitations.
Pourquoi ?
Pendant longtemps, elle n'était pas intéressée par les mouvements féministes. Elle considérait, pour le dire rapidement, qu'ils se trompaient de combat. Ou plus exactement, que, bien sûr, Bertha von Suttner était favorable à une forme d'émancipation des femmes. Elle était en particulier favorable à ce que elles accèdent à la même éducation que les garçons, que les jeunes hommes, et qu'elles puissent en particulier atteindre l'autonomie, l'indépendance financière. Donc, dans une certaine mesure, en tout cas, Bertha von Suttner était adhérait tout à fait aux causes du mouvement féministe. Néanmoins, elle considérait que tant que la paix n'était pas assurée et garantie sur le long terme dans le monde, les combats féministes, finalement, passaient un petit peu à côté de l'essentiel.
Alors, pour comprendre la perception de Bertha von Suttner par ces milieux, vous avez étudié le traitement de son décès en juin 14 dans différents organes de presse féministes allemands et autrichiens. Qu'est-ce que vous en avez conclu ?
Oui, alors c'était intéressant de passer en revue les articles nécrologiques donc à la mémoire de Bertha von Suttner après son décès en juin 1914, juste avant une semaine avant l'attentat de Sarajevo. Et donc ce que j'ai pu observer, c'est que bon, Bertha von Suttner ayant, rappelons-le, largement accédé à la célébrité en 1914, bien sûr, j'ai trouvé des articles nécrologiques à sa mémoire dans pratiquement toutes les revues féministes. Néanmoins, en y regardant d'un peu plus près, on constatait des différences quand même assez notoires dans la forme et le fond de ces articles. La forme, alors là je fais allusion simplement à la longueur de l'article, hein, ça pouvait aller d'un article assez court d'une demi-page à des articles beaucoup plus développés de 4 pages de longueur. Quant au contenu, là aussi, on notait des différences notoires. On peut dire que, en Allemagne comme en Autriche, les mouvements féministes de tendance plutôt modérée était assez modérée également dans l'hommage qu'elle rendait à Bertha von Suttner. Et ces articles avaient d'ailleurs plutôt tendance à souligner l'œuvre littéraire de la défunte, les positions qu'elle a pu occuper, sa trajectoire biographique en partie, mais ne s'attardait justement pas sur la lutte essentielle aux yeux de Bertha von Suttner qui était la lutte pour l'établissement de la paix dans le monde.
Et alors là, on a parlé des milieux féministes germanophones, donc autrichiens et allemands. Mais Bertha von Suttner a aussi rencontré lors de ses voyages aux États-Unis des féministes américaines. Est-ce que ces rencontres ont été importantes pour elle ? Est-ce qu'elle en a tiré quelque chose ?
Oui, alors ces voyages ont été extrêmement enrichissants pour elle. Bertha von Suttner a voyagé en 1904, puis de nouveau en 1912 aux États-Unis. Et là, elle est entrée en contact avec les milieux féministes et pacifistes états-uniens. Et c'est ces voyages qui lui ont fait prendre conscience du potentiel qu'il y avait à mettre en relation justement les mouvements féministes avec les mouvements le mouvement pacifiste international. Donc on remarque que la prise de conscience s'est faite à ce moment-là et c'est dans les années 1910 justement que Bertha von Suttner, par exemple, a accepté la première fois d'être l'invitée d'honneur à un congrès féministe en Autriche pour mettre en relation les deux mouvements. Néanmoins, là je parle de 1912, Bertha von Suttner est décédée en juin 1914. Il y a fort à supposer qu'elle n'a pas eu le temps de mettre en œuvre ce dont elle avait pris conscience, c'est-à-dire qu'il serait fort intéressant d'essayer de gagner les féministes de tous les pays, du reste, hein, de gagner les féministes à la cause du mouvement pacifiste.
Alors, on voit que ce sont deux mouvements qui ont eu un peu du mal à se rencontrer, malgré ce décalage. Est-ce que vous diriez que ces deux mouvements, le pacifisme et le féminisme, qui émergent simultanément dans la deuxième moitié du 19e siècle, ont des fondements communs ?
Oui. Ils ont des fondements communs, ils ont des principes communs, notamment le principe de l'unité, de l'indivision de l'espèce humaine, finalement. Alors, ce principe, il est, je dois l'admettre, davantage représenté, incarné et même revendiqué par les féministes de tendance plutôt radicale, donc bourgeoise, mais radicale, qui, elles, donc, vont réclamer une égalité de droits entre femmes et hommes, au nom de l'appartenance des femmes à l'espèce humaine. Ce sera beaucoup moins la stratégie des féministes modérées, mais donc on a là l'une des racines communes tout à fait entre mouvements féministes et pacifistes. L'autre élément commun ou racine commune entre ces deux mouvements est l'idée d'égalité, enfin de fraternité même entre les peuples. C'est-à-dire toutes ces femmes du 19e siècle tardif ne trouvent pas accès à la sphère politique, ou plus exactement, on leur interdit l'accès aux postes de direction et de décision en politique, mais ces femmes cultivées, intelligentes, observent le monde et observent que lorsque les hommes dirigent le monde, les guerres se répètent et déchirent l'humanité.
J'aimerais aller au congrès des écrivains à Berlin. Maintenant, les femmes ont aussi le droit de s'exprimer à la tribune. Je trouve cela terriblement excitant.
C'est terrible tout court. Quand on sait que le cerveau de la femme est, du point de vue physiologique, inapte à la réflexion.
Ah oui ? On a aussi longtemps affirmé que la Terre était plate. Excusez-moi.
Extrait de Madame Nobel, biopic autrichien de Bertha von Suttner, sorti en 2015. Au cours de sa vie publique, est-ce que Bertha von Suttner a été critiquée par ses détracteurs en tant que femme ?
Oui, bien sûr. Et ce, d'autant plus qu'elle se mouvait quand même principalement dans les milieux de la haute société. Elle s'adressait à des généraux, donc vraiment à des représentants d'un milieu militaire masculiniste à l'envi à l'époque. Donc oui, elle savait exactement à quoi elle s'exposait et elle a effectivement dû entendre de tels arguments. Et comme elle savait très bien que de tels arguments allaient lui être retournés, elle a commencé par publier un certain nombre de ses œuvres littéraires et de ses essais sous couvert d'anonymat, pour justement donner une chance à l'œuvre d'être lue, reçue, discutée, et non tout de suite dénigrée comme étant le produit d'une plume féminine.
Et une fois qu'elle a signé ses œuvres de son nom, est-ce que ces critiques sont effectivement survenues ?
Oui, bien sûr, on a immédiatement raillé ces ouvrages comme étant un bel enfantillage de femmes. Enfin, on a entendu à l'instant le genre d'argument qu'on pouvait non seulement penser, mais aussi dire dans les meilleures sociétés. Hein, les femmes ne sont donc absolument pas capables de raisonnement logique. Elles sont dans l'émotion, dans les pleurs. Et puis, justement, on a retrouvé cette distinction entre le masculin et le féminin dans l'extrait tout au début de l'émission, où la femme et par exemple la femme de l'empereur, mais toutes les femmes du pays étaient en pleurs aux pieds de leur époux en les suppliant de surtout ne pas aller à cette guerre et idéalement même de ne pas la déclencher. Donc oui, elle connaissait ses arguments, elle avait vraiment grandi dans ces milieux, donc il n'y a eu aucune surprise à ce niveau-là, et il faut dire que très courageusement et sans se démobiliser toute sa vie durant, elle s'est confrontée à ce type d'argument.
Alors, c'est peut-être pour que les générations futures y soient moins confrontées qu'elle s'est beaucoup investie sur le thème de l'éducation et notamment de l'instruction des filles. Pourquoi cette cause lui semblait-elle essentielle ?
Alors, cette cause lui semblait essentielle puisque elle estimait que ou plutôt elle observait que dans le monde dans lequel elle vivait, c'était très clairement les femmes, les mères, qui étaient très largement en charge de l'éducation des enfants. Selon elle, il s'agissait d'éduquer les générations présentes, mais aussi les générations futures, bien sûr, les éduquer à ces principes d'amour de la paix, principes d'égalité entre les peuples et de nécessité absolue de mettre fin au règne de la violence et de faire advenir le règne du droit. Donc, en ce sens, il fallait commencer par ouvrir tous les lieux de savoir aux femmes afin qu'elles puissent s'éduquer ou être éduquées et qu'elles puissent mieux éduquer leurs maris, si cela était encore possible, et surtout leurs enfants. Et sans doute, y avait-il également une dimension personnelle dans cette lutte ou dans cet engagement de Bertha von Suttner pour l'éducation des femmes, car elle n'a reçu aucune éducation. Non que les moyens aient manqué dans sa famille, mais c'est surtout qu'elle était une fille et qu'on n'a pas estimé nécessaire de lui donner une éducation plus que rudimentaire. Et pour le reste, c'est elle qui a tout fait, c'est-à-dire qu'elle s'est procuré des livres, qu'elle a lu toutes les bibliothèques auxquelles elle a trouvé accès, et elle a certainement su mesurer la chance qu'elle avait, car avec l'ascendance qui était la sienne, elle avait accès à une certaine à des bibliothèques de haut niveau, à des lieux dans lesquels on pouvait accéder à ce savoir philosophique, moral, scientifique. Mais les femmes d'ascendance plus modeste, et voire celles dont les familles étaient très pauvres, elles, il fallait absolument leur prévoir pour elles une éducation obligatoire et surtout égale à celle des garçons.
Oui, alors parce que cette éducation en autodidacte, pour le coup, elle l'attribue aussi au personnage de Martha dans Bas les armes, où le thème de l'éducation est globalement présent, et pas seulement l'éducation des filles, mais d'une manière générale, l'éducation des enfants dans une perspective pacifiste. Et elle s'intéresse notamment aux jouets qu'on offre à son fils. Elle refuse qu'on lui offre des armes factices. Alors, on est vraiment dans une logique de mettre fin à la spirale de l'endoctrinement militaire, mais quand on lit le livre aujourd'hui, on se dit qu'elle a presque anticipé les débats sur les jouets genrés.
Oui, tout à fait. Oui. Il faut peut-être rappeler pour cela le contexte historique. À l'époque, en Autriche, donc dans la double monarchie d'Autriche-Hongrie et dans l'Empire allemand sous Guillaume II, les sociétés étaient véritablement des sociétés militarisées. C'est-à-dire que l'élément militaire était omniprésent. Le militaire était à la mode, si vous voulez. On habillait les dimanches, par exemple, les petits garçonnets étaient forcément en costume de marin. Alors là, je parle en particulier de l'Empire allemand. On offrait à Noël, aux anniversaires, des petits soldats de plomb, des petits jouets en bois, effectivement, qui représentaient des véhicules militaires. Donc c'était un élément dominant de la société. Et là, Bertha von Suttner avait raison, les dominants, les décideurs politiques, toute la caste politique et militaire jouaient un grand rôle dans cet effet-là. Mais l'école également, l'école, les institutions, alors les écoles de garçons en particulier, célébraient des valeurs militaires, la discipline, la rigueur, le courage, le fait de dissimuler ses émotions. Et Bertha von Suttner a été effectivement extrêmement lucide dans son regard sur la société et sur les institutions scolaires, politiques et militaires de son temps, et a bien vu que c'était là un des chantiers majeurs sur lesquels il fallait axer ses efforts pour transformer la société en profondeur et la pacifier, y compris dans ses structures et dans le plus intime des mentalités des gens.
Alors, quand elle reçoit le Nobel en 1905, Marie Curie a déjà eu cette récompense dans une autre discipline, mais Bertha von Suttner est quand même la première à l'avoir pour la paix. Est-ce que le fait d'être la première femme, ça veut dire quelque chose pour elle? Est-ce qu'elle fait un commentaire là-dessus ou pas?
Alors non, justement, c'est ça qui est très surprenant. Peut-être que, avec notre point de vue de l'année 2023, on attendrait une Bertha von Suttner qui, bon, certes en 1905, on imagine qu'on ne peut pas parler comme en 2023, mais qui bien sûr soulignerait l'élément. Et non, précisément, Bertha von Suttner a mis complètement et entièrement en retrait son identité féminine dans le discours qu'elle a tenu au moment où elle a reçu ce prix. Et ceci est d'autant plus surprenant que Bertha von Suttner, enfin qu'on doit le prix Nobel pour une grande part à Bertha von Suttner elle-même, car c'est elle qui, forte de son amitié avec Alfred Nobel, l'inventeur suédois de la dynamique, a convaincu son ami donc de mettre son patrimoine à la disposition d'un prix auquel il donnerait son nom. Mais elle a dû, je ne sais pas si dans quelle mesure vous en avez parlé dans les émissions précédentes. Ouais, d'accord. Mais elle a dû véritablement travailler Alfred Nobel au corps. Pour ce projet, qui est donc vraiment dans une grande mesure son projet.
Et qui est son projet, et d'ailleurs on peut se dire qu'elle l'obtient tôt, enfin que le Nobel récompense relativement tôt une femme après sa création, mais on pourrait aussi se dire que finalement elle ne l'obtient qu'au bout de quelques années, alors que peut-être elle espérait l'avoir en fait dès le début, et les gens qui l'ont eu avant elle, le Nobel de la paix, étaient ses amis.
Exactement, oui, il y avait, quand on lit les textes et les mémoires de Bertha von Suttner, on voit bien qu'il y a tout de même une forme d'amertume. Effectivement, elle aurait tout à fait pu imaginer recevoir le prix Nobel un peu plus tôt que ce n'a été le cas, et disons que le fait que des hommes pacifistes les précédés dans ce rôle n'ont fait que confirmer, disons, la tendance de l'époque. On mettait bien d'abord les hommes en avant éventuellement de concéder à reconnaître un effort non moins important chez une femme.
L'une des nécrologies de Bertha von Suttner que vous avez trouvée dans la presse féministe affirmait « Il ne sera donné qu'aux générations futures d'apprécier son action à sa juste valeur ». Dans quelle mesure cette prédiction s'est-elle vérifiée ? Est-ce que la figure de Bertha von Suttner a eu une postérité dans des mouvements féministes ultérieurs ?
Oui, alors cette citation effectivement était vraiment très prémonitoire, et cette intuition des féministes allemandes modérées était très très juste. En effet, Bertha von Suttner est décédée, on pourrait dire, à la fois au bon et au mauvais moment. Elle est décédée au bon moment dans la mesure où, étant décédée juste une semaine avant les attentats de Sarajevo, elle n'a pas eu à voir le spectacle de l'échec complet de l'effort de toute une vie, de tout son engagement, qui l'aurait sans doute complètement atterré. Elle est décédée cependant également au mauvais moment, dans la mesure où, à l'été, en juin 1914, l'ambiance n'était plus du tout au pacifisme. Elle l'était déjà assez peu auparavant, mais alors, après l'attentat de Sarajevo, elle n'y était plus du tout. La poussée de fièvre était à son acmé. Tous les pays européens étaient en train de faire des alliances plus ou moins secrètes de dernière minute et des calculs pour gagner au mieux la guerre avec un maximum d'annexions. Vous comprendrez bien donc qu'elle est décédée à un moment où on pouvait le moins lui faire hommage et faire hommage au travail de toute sa vie.
Mais ça a été quand même un peu le cas plus tard.
Oui, alors il a fallu attendre quelques décennies pour qu'on se rappelle en fait la vie et surtout l'œuvre de Bertha von Suttner, puisque la période de l'entre-deux-guerres entre les deux conflits mondiaux en Europe n'était pas plus propice à une mémoire pacifique en Europe. Il a fallu attendre l'après 1945 pour qu'on redécouvre le personnage de Bertha von Suttner et qu'on redécouvre l'histoire du mouvement pacifiste international qui avait été très important, mais qui est tombé dans l'oubli sous l'effet de deux conflits mondiaux consécutifs.
Merci beaucoup, Anne-Laure Briatte.
Merci à vous.
Les références de votre ouvrage sont disponibles sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Avoir raison avec Bertha von Suttner, c'est fini. Merci à Henri Leblanc qui m'a aidé à la préparation de cette émission et à Olivier Bétard pour la réalisation, ainsi qu'à Alexandre Dang pour la technique. La semaine prochaine, vous retrouverez Aïda Ndiaye qui vous présentera l'œuvre La pensée et l'héritage du philosophe Günther Anders.